Radio Campus Tour, 99.5 FM.
Et donc, et on attend toujours la musique voilà, de l'édito. Voilà, parfait, c'est parti. Chers auditeurs, chers Facebook viewers, cette fois-ci, l'heure de la décision a sonné. Dans quelques semaines se décidera votre avenir. Un choix qu'il vous appartiendra de faire, quelles que soient vos convictions, quelles que soient vos idées, quelles que soient vos sensibilités. Il va falloir faire un choix et il faudra faire cette fois-ci le bon. Ne laissez personne vous dicter ce que vous devez faire. Ne laissez personne aller à l'encontre de vos idées. Pour un monde meilleur, chers auditeurs, chers Facebook Live et chère équipe de C'est la faute à la manette, j'ai besoin de le savoir ce soir. Allez-vous précommander South Park, l'anal du destin, en collector ou en version gold? C'est très important.
J'avoue que c'est une très bonne question.
C'est une très bonne. Pour la République, Guillaume, que choisis-tu?
Je pense que je vais prendre l'édition Deluxe parce qu'il y a une promotion justement actuellement sur le Ubishop à 40€ en version PS4 avec le Season Pass.
Cool. Ah. Pour la République, Ferdi.
Moi, totalement.
Totalement, laquelle?
La normale, et je balancerai les liens. Je balancerai parce qu'il y a la VF la première fois.
En plus.
Ouais, et on pourra balancer des samples et des gifs, ça va être trop bien.
Cool. Tom, pour la République.
Moi, je ne sais pas encore, je pense que je vais acheter blanc.
Tu vas acheter Sushi pour la République.
Non mais totalement, hein. Version classique je pense.
Version classique, ok, nous serons donc tous en train d'y jouer. Peut-être sauf Tom qui va jouer un
on
jeu tout blanc.
On ne sait pas encore si un des personnages me définit vraiment finalement.
D'accord, par exemple Cartman.
Par exemple Cartman.
J'avoue que c'est pas mal.
Donc c'était la question de ce jour, on espère que vous répondrez nombreux sur le Facebook Live, au moins à 2 ou 3. Dans ce cas, bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce 37e numéro de C'est la faute à la manette.
Eh oui, 37.
Ouais, déjà, on peut s'applaudir. Ce début d'émission est beaucoup plus épique que j'imaginais.
C'est plus total.
Au programme, donc, cette semaine, on sera là pour vous parler d'une série majeure du RPG japonais, Persona. Persona qui est là, hein. Vous avez un petit décor magnifique, Persona, et plein d'objets Persona dont on vous parlera tout à l'heure. D'abord, pensez comme un simple spin-off d'une autre grande saga. Elle est aujourd'hui bien plus grande que son aînée, et ça, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, grâce à ses nombreuses qualités sur lesquelles nous reviendrons tout à l'heure. Il y aura également le test de Graceful Explosion Machine, un petit jeu bien sympa sur Switch, que vous pourrez voir en direct là, juste sur cette magnifique Switch qui est ici.
Je tenais juste à lire un des commentaires qu'on a reçu sur Facebook Live qui nous dit: vous défiez Mélenchon au calme, bravo. Il m'a fait beaucoup rire. Damien Zouk, merci beaucoup.
Mélenchon, si tu nous regardes, tu es le bienvenu dans l'émission.
Même en hologramme.
Guillaume nous parlera de Fiscal Combat, justement, en parlant de ça. Il mêlera astucieusement politique et jeux vidéo. Bonjour Guillaume, comment ça va?
Bonjour, et ben écoute, ça va très bien. Je suis le technicien multi-technique.
Alors, vous pouvez mettre dans les commentaires si vous pensez que Guillaume est une machine ou pas.
Voilà, mettez un j'aime.
Également plus énervé que Sangoku et Joe Dalton réunis, Ferdi nous parlera de ce jeu génial qui est Azura's Wrath. Bonjour Ferdi.
Bonjour à tous.
Alors, ça va être bien?
C'est déjà bien.
C'est déjà bien.
C'est déjà bien.
Ok. Aussi autour de la table, l'homme qui a de gros sourcils mais à qui on ne demande pas de rendre l'argent, c'est Tom. Bonjour Tom.
Salut à tous, salut Julien. Effectivement, je n'ai pas mon costume à 7000 euros sur moi. Peut-être pour une prochaine
Peut-être
fois.
Peut-être quand on sera riche et qu'on aura 1 million de vues hein, sur le Facebook Live. Le nouveau de l'équipe que l'on n'a pas encore laissé seul avec Professeur Gorfus pour le bisutage, c'est Sushi. Bonjour Sushi, tu y passeras hein, comme tout le monde.
J'ai vraiment peur en plus. Hein.
Non, mais il est là, il revient de temps
en
temps. Il est
gentil.
Temps.
Ah,
d'accord. Ouais, si tu
il
mets,
a des bonbons.
Si tu mets des trucs bien moulants, a priori, il est très, très, très gentil.
Je suis dans le caca.
On finira également par un quiz musical et ça sera déjà pas mal. Hein. Si on arrive déjà à caler tout ça en une heure, ce sera déjà super. C'est donc parti pour les news.
Et c'est parti.
Et donc on attaque les news de cette semaine avec la news qui nous a tous marqué cette semaine, enfin chacun notre tour, et on va commencer par toi Tom.
Alors petite news pour cette semaine, j'en ai deux, j'en ai une qui me fait plaisir à mon petit cœur de PCiste, nous avons enfin des dates pour la 3.0
oui,
Star Citizen, et comme chaque semaine j'ai une news sur ce satané jeu.
Merci Tom,
bonne voilà. Ça sera, voilà, je vais juste expliquer rapidement, c'est donc une mise à jour majeure, on va passer de juste une planète à 3 de plus.
D'accord.
Et donc c'est surtout le début de la technologie procédurale qui devrait mettre No Man's Sky à l'amende. Donc voilà, on va voir ce que ça donne et ça sort
T'es
en
content,
fin
hein.
juin. Je suis très content.
T'es content.
Deuxième petite news, Julien Chiez s'est fait remercier de Gameblog.
Ouais, on l'avait entendu ça, effectivement.
Voilà, c'est quand même un petit peu triste parce que c'est quand même le mec qui a cofondé Gameblog et donc le gars s'est fait virer de sa propre entreprise.
Comme un malpropre.
Hein,
vraiment comme un malpropre.
Il faut savoir qu'il n'est pas tout seul à être parti. Il y a Carole Quinten qui est partie, il y a AHL qui est parti, il y a Cyril Drevet qui est parti.
Tu m'avais dit.
Voilà. Donc, en fait, Gameblog n'a plus sa ligne
éditoriale,
mais sa ligne.
Triste,
je veux dire, ça sérieux, sa représentation, enfin, c'est.
On en parlait avant l'émission, tout, hein. Effectivement, Gameblog, on peut ne pas aimer, pas apprécier ce qu'ils font. Julien Chiez, ça reste quand même un gros du milieu. Et le voir se faire éjecter comme un, bah, comme une merde, hein, on peut le dire.
Un peu
hein,
tel un Kojima, en fait.
Tel un Kojima.
C'est ce qu'il a dit justement dans sa vidéo de remerciement.
Oui,
il a dit je sais ce que ressent maintenant Kojima quand on a des différends avec ses patrons.
Et bien, il a rejoint son dieu au paradis des gens au chômage.
Voilà.
Du coup,
Non, mais ouais, c'est.
C'est dommage pour lui.
Non, il avait une certaine vision des choses, plus
cinématographique.
Je pense qu'il retrouvera du travail.
Moi, je trouvais que justement, c'était quelqu'un qui était bien dans l'industrie, parce que même s'il est hardcore gamer, on l'aimait pas du tout, au moins, c'était quelqu'un qui pouvait plaire à une audience qui voulait plus des expériences cinématographiques.
Voilà,
et j'ai toujours trouvé ces interviews, par exemple, avec Benzaï, hyper intéressantes,
ouais.
Où on avait vraiment les deux côtés. Donc,
il avait
dommage.
Un carnet d'adresses, il était aimé de beaucoup de gens. Il avait souvent des scoops en avance.
Oui, bah oui.
Ces émissions, j'ai quelque chose à vous dire, ils sortaient quand même.
Les éditeurs
des trucs,
l'aiment bien, donc forcément, les éditeurs le récompensent. Donc il y avait quand même quelque chose. Qu'on aime ou n'aime pas, il avait quand même quelque chose. Donc viré par ceux que tu as créé, grosso modo, c'est.
C'est la faute aux actionnaires, voilà.
On lui souhaite bonne route.
On
hein,
lui
du
fait
coup,
des bisous.
Voilà, des bisous.
C'est la faute aux actionnaires.
Tu peux venir quand tu veux, c'est la faute à la manette. c'est pas de problème. Ferdi.
Alors moi, il y a eu la Gamer Assembly à Poitiers, là, donc Festival eSport, jeux vidéo. Il y a eu un tournoi League of Legends. Alors, le tournoi amateur a été gagné par nos amis de Connect eSport, que s'il y en a qui nous regardent, on leur fait des coucous. Donc Connect eSport de Tours, hein. Qui ont gagné donc le tournoi amateur et le tournoi Hearthstone donc pro a été gagné par Alkilon, j'espère que je prononce bien, donc un gars de Gien qui est un membre de la team Seawall, donc beaucoup de membres sont de Tours, voilà, et donc beaucoup de gens du coin ont représenté le Tours là-bas.
D'accord.
Et ont gagné, surtout, c'est ça qu'ils n'ont pas représenté, mais ils sont allés loin dans les phases de poule. Donc voilà,
ce qui est plutôt pas mal.
Tours s'en sort bien en sport ces temps-ci, hein,
ouais, c'est ça.
Le volet, tout ça.
Sushi, est-ce que tu avais quelque chose à nous dire cette semaine?
Oui, je voulais parler de Star Citizen, mais on en a déjà parlé avant. Ah. Oui, c'était la 3.0, on a eu une date, donc voilà, on l'a dit tout
c'est
à l'heure.
Quoi,
je crois que c'est le 29 juin.
C'est fin juin.
Ouais. Redis la date, ça te fait du bien.
Le 29 juin.
Voilà, Tom. Ça tombe bien, Tom, tu pourrais être là pour mon mariage. Hein. Ça tombe.
Effectivement,
ça tombe bien. C'est seulement 5 jours après.
Parce que je vais venir avec ma tourse dans mon dos, et un panneau solaire.
On va faire dans un petit coin à côté du petit four.
Ouais, exactement. Après, de toute façon, la mise à jour risque de faire 30 gigas, donc le temps que je télécharge,
effectivement, t'as le temps de faire 2-3 petits trucs à côté. Ok, Guillaume, t'avais des trucs à nous raconter.
Oui, alors c'est il y a 2 semaines ou la semaine dernière, je sais plus.
C'est la semaine dernière.
Il y a la presse qui a pu voir la Scorpio, donc la nouvelle console de Microsoft, et du coup toutes ces specs ont été détaillées. Donc la console est plus puissante du coup comme on l'espérait qu'une PS4 Pro, c'est-à-dire 2 teraflops de plus. À savoir la PS4 Pro, il faisait 6 teraflops. et la Xbox Scorpio 2 teraflops, ce qui est beaucoup. Donc elle, normalement, elle pourra diffuser, elle pourra jouer de la 4K native, ce qui est assez impressionnant quand même pour une console de salon, et elle pourra aussi streamer de la 4K en 60 FPS. C'est assez impressionnant. Les specs donnent envie, donc maintenant attendons de voir le 3 et s'ils vont nous annoncer des jeux qui seront à la hauteur. Donc sur un Forza Motorsport 7.
Est-ce que c'est des jeux qui seront
en 4K 60
FPS? Est-ce que c'est comme Sony avec des jeux qui seront compatibles dans les deux, il ne faut pas qu'ils fassent des jeux exclusivement PS4 Pro?
Oui.
Ouais, est-ce qu'il,
et justement,
il y aura
même
les deux?
Oui, et même d'accord. Que les jeux Scorpion seront mieux optimisés, et par exemple que les jeux qui sortiront aussi sur Windows 10.
D'accord.
C'est-à-dire qu'ils disent, okay. Oui, vous pouvez peut-être avoir un PC puissant, mais la Scorpio aura l'optimisation nécessaire pour faire tourner les jeux sur Scorpio.
Elle serait pile poil dans les meilleures configurations
voilà.
possibles. D'accord.
Et elle risque, beaucoup pensent qu'elle risque de coûter un peu cher. Il y en a qui pensent même à aller dans les 600-700 euros. Ça reste quand même une console pour des gens qui ont les moyens.
Mais c'est peut-être
c'est du haut de gamme,
hein. C'est peut-être dangereux.
Peut-être qu'il y aura aussi le pari de la VR, parce que du coup ils pourront se...
Ah bah oui, là tu peux faire la VR tranquille avec ça.
Mais
avec...
on ne sait pas en fait quels sont les projets encore de Microsoft.
S'ils sont malins, ils sortent comment ça s'appelle leur projet de réalité augmentée?
Bah non, les HoloLens c'est arrêté. C'est pour l'industriel.
C'est dommage.
Mais du coup pour l'instant on sait qu'il y aura du coup Forza Motorsport 7 en 4K 60 FPS. Donc ça risque d'être impressionnant à voir. On espère qu'ils sortent d'autres jeux. Peut-être je pense à Rise of Rome 2 pour remontrer encore la performance de leur... console.
S'ils pouvaient mettre du gameplay dedans
encore.
Mais ils ont besoin de sortir des jeux parce que là, ce temps-ci, ils se font devancer quand même beaucoup par PlayStation et par Nintendo et leur Switch. Quoi.
Alors, moi, j'ai une question du coup avec tous ces PS4 Pro, Xbox Scorpio, est-ce que ça annonce pas une durée de vie un peu plus conséquente pour les consoles de maintenant, ou est-ce que c'est juste un entre-deux et dans 3 ans, on nous présentera déjà la succession?
On ne sait pas encore le principe de la projet Scorpio, ça se trouve, et je ne sais pas si ça se trouve parce que la Scorpio sera la première console modulaire. C'est-à-dire qu'on aura un pack de base avec justement à 700 balles. Et est-ce qu'on ne pourra pas améliorer la console justement en achetant par exemple une nouvelle carte graphique, des choses comme ça?
Est-ce que ça s'appellerait pas un PC?
Parce qu'on s'est jeté des regards amoureux avec Ferdi.
Mais Microsoft parie sur la fin de la console justement comme on la connaît. Donc peut-être qu'aujourd'hui on va passer plutôt à des consoles qui s'amélioreront comme un PC. Et qui voilà pourront tenir si vous aurez fait des mises à jour en fait matérielles de votre console.
D'accord.
Moi ce que j'aimerais bien perso, c'est quelque chose qui nécessite pas de s'y intéresser beaucoup. Moi j'aimerais bien par exemple genre bon bah voilà, pour faire tourner ce jeu là qui sort, vous avez besoin d'un processeur de niveau genre 1, 2 ou 3, un truc vraiment facile, ou de dire un petit peu comme Windows quand ils faisaient des notes à une époque pour le matériel.
Oui.
Genre voilà, il faut que votre Scorpio en général soit mettons à 5 sur son matériel ou un truc comme ça. Je trouverais ça sympa qu'il y ait que ce soit genre une sorte de PC modulaire mais avec beaucoup de simplicité, qu'on n'ait pas à se dire ah moi j'ai i7 4970K machin.
Oui, en fait c'est peut-être pas les mêmes erreurs qu'avec les PC.
Et ouais voilà, ouais. Et qu'on n'ait pas de Radeon R9 8600 sans GTX bidule et qu'on sache pas trop ce que ça veut dire finalement.
Après pour Microsoft ça reste un pari assez risqué, mais sur le long terme elle peut devancer en fait toutes les consoles, parce que là Sony peut pas se permettre de ressortir une PlayStation.
Non, c'est fini.
C'est-à-dire que là maintenant voilà, ils ont essayé toutes leurs cartes pour cette génération, soit ils auront à sortir la PS5 assez tôt pour contrer Microsoft, soit il faut qu'ils trouvent une autre solution, mais du coup là Microsoft ont intérêt à du coup sortir un catalogue assez conséquent.
En fait là je pense que l'E3 va être déterminant pour eux, quoi.
Bah pour tout le monde,
Nintendo en tête d'ailleurs, parce qu'ils ont encore beaucoup à prouver là pour l'instant.
Il y a que Sony qui sont à peu près tranquilles parce qu'ils ont annoncé des jeux qui vont sortir encore dans 3 ans, donc
ils ont le monopole aussi de leur côté.
Ils ont fait l'E3 il y a 3 ans avec Shenmue 3 etc. Donc ils ont 4 ans d'avance.
C'est vrai. Le nouveau David Cage.
C'est ça, donc ils sont tranquilles.
Ouais. Tu avais une autre news, Guillaume, je crois.
Oui, il y a eu la bande-annonce de Star Wars Battlefront 2 ce week-end Star Wars Célébration. Donc il y a eu la bande-annonce du film Star Wars 8 The Last Jedi. Et mais il y a eu aussi en jeu vidéo du coup Star Wars Battlefront, qui n'aura pas de Season Pass, qui aura un mode écran scindé et qui aura un mode solo.
Ça m'intéresse.
Tout ce que tout le monde voulait.
J'aime pas trop cette pratique ces temps-ci. C'est un petit coup de gueule de Bibi, parce que ils nous font la même avec Destiny. Genre, tenez, voilà les trucs que vous vouliez. Et en fait, j'ai vraiment l'impression qu'ils nous ont vendu deux fois un seul jeu. C'est-à-dire, vous voulez Battlefront, regardez, en voilà un, et en fait c'est de la merde, mais vous l'avez acheté quand même. Et du coup, pour le 2, cette fois, on vous fait un jeu qui est bien.
Un jeu complet.
Et du coup, t'as dépensé 140 balles au lieu de 70.
Bien sûr, après, tant mieux qu'ils aient rectifié le tir. Tu vois, ils auraient pu reproposer un Season Pass. Alors,
mais voilà, ça aurait
c'est
été
quand vraiment... même très Electronic Arts.
Et moi, je trouve ça hyper dommage.
Et il faut vous rendre compte que leur annonce, c'est on sort un jeu complet.
Voilà.
Que ça, c'est des trucs qu'il y a quelques années.
C'est un truc qui serait normal.
Et c'est la même pour Destiny, c'est-à-dire, vous vous souvenez du premier, toutes ces promesses qu'on n'a pas tenues. retenues, et bien cette fois elles sont dans le 2. Allez, 70 balles.
Mais là, ce que je trouve pas mal aussi par rapport là, c'est hors les critiques que tu viens de dire, c'est que dans le premier, c'est que tu avais que.
Oui, que une époque.
Que l'époque 4, 5, 6.
C'est vrai.
Et maintenant, en fait, tu auras du coup l'époque de la première trilogie.
Ça, c'est très cool.
L'époque de la deuxième trilogie et la trilogie en cours. Et d'ailleurs, les DLC de précommande, vous aurez par exemple Rey en version The Last Jedi, donc Star Wars 8, etc., etc. Donc c'est plutôt cool que du coup, tu puisses jouer avec ce qui tu veux, avec les personnages que tu viens de voir au cinéma, et ça c'est cool. Est-ce parce que moi, c'est assez frustrant de voir
jouer
que
les midi-chloriens.
Est-ce qu'on pourra jouer? Moi je veux jouer Jabba. Est-ce qu'ils vont faire ce plaisir? J'espère. Mais tu ne bouges pas.
Pas compliqué quand même.
Bah, tu ne joues, si ne bouges non, pas, tu joues une tour.
Tu peux envoyer de Bounty Hunter.
Tu joues la suite.
Non, mais oui, visuellement ça a l'air d'être encore une claque quoi.
Ouais, bah ça, de toute façon, le moteur de Dice.
Oui, le Frostbite Century.
C'est toujours aussi bon.
Ok.
Quoi qu'il en soit.
Moi j'avais juste une petite news. Voilà, Nintendo offre jusqu'à 20 000 $ pour trouver les failles de la Switch. Hein, c'est beaucoup moins qu'Apple. Nintendo n'étant pas très riche, hein, seulement quelques centaines de milliards de dollars, il ne peut pas offrir plus. Donc si vous trouvez un bug sur la Switch, hein, comme à peu près tout le monde, vous avez gagné 20 000 $.
Ne l'envoyez pas.
C'est
surtout,
peut-être surtout qu'ils savent que leur console est peut-être plus faible aussi.
Et c'est possible.
C'est surtout pour contrecarrer le problème qu'on a eu avec la DS et les autres consoles Nintendo qui se faisaient craquer avec la Wii et tout. Et là, ce qu'ils essayent de faire, c'est contrecarrer en fait tous les hackers qui essayent de trouver des failles, sortir un Ombro.
Parce que c'est un rêve de d'émulation.
Avant qu'un mec se mette à balancer un R4 pour.
Ouais, voilà, bah c'est ça. Switch, et là, ils essayent de contrecarrer
via la carte SD.
C'est ça, c'est ça. Voilà, bah c'est tout pour les news. On passe aux rubriques. Qu'est-ce qui a envie de la faire en premier, sa rubrique, Guillaume, de faire.
Si vous voulez, hein, moi je peux faire.
Moi après.
Eh bah, Guillaume, alors.
Du coup, moi je vais vous parler du jeu Fiscal Combat qui est sorti du coup. Il y a une semaine et demie. C'est un jeu de la team Discord Insoumis. Donc la team Discord Insoumis, c'est Discord en fait, une espèce de logiciel pour discuter entre joueurs.
Rien à voir avec la fistinière.
Non, du tout.
C'est un site qui permet de discuter à l'écrit ou à l'oral.
Voilà, à l'écrit ou à l'oral. Et du coup, ils ont créé cette. C'est une communauté qui vient en fait de l'équipe de Jean-Luc Mélenchon, qui est du coup la France Insoumise. Et du coup, ils ont créé un Discord. Et une partie de ce Discord s'est dit tiens, on n'a qu'à faire un jeu où Jean-Luc Mélenchon fait du coup de fou pour rendre l'argent. Et du coup, vous retrouvez donc avec un jeu qui se joue sur n'importe quel navigateur. Conseillé d'utiliser un navigateur libre, je ne sais plus le nom. Et en fait, vous jouez Jean-Luc Mélenchon qui rencontre plusieurs personnalités politiques et il doit les battre, les lancer dans tous les sens pour récupérer l'argent. Donc au début, vous aurez juste un personnage lambda qui me semble être John Stuart Smith, donc un grand économiste du 19e siècle ou du 20e siècle, je ne sais plus. Après, vous pouvez vous retrouver en face de François Fillon. Vous lui dites rendez l'argent. Vous pouvez vous retrouver en face de Patrick Balkany qui vous proposera un emploi dans sa mairie. Vous pouvez vous retrouver face à Nicolas Sarkozy, etc., etc. Et plus les personnages arrivent, par exemple, et plus c'est compliqué. Par exemple, un qui est assez compliqué, c'est à partir de Pierre Gattaz, le patron du MEDEF. Et plus c'est dur, en fait, plus ils ont des barres de vie importantes et ils donnent plus d'argent. Plus en plus de masse de personnages arrivent et vous avez du coup que deux touches pour vous battre, la flèche droite et la flèche gauche. Et dès que vous vous déplacez vers un personnage, vous le tenez dans les mains, ça se fait automatiquement et vous avez juste appuyé sur la flèche du haut pour lui le balancer dans tous les sens et pour lui prendre son argent. D'accord. Après, vous le lancez sur un autre ennemi et vous faites des combos comme ça pour augmenter l'argent. Par exemple, si vous êtes à un combo de 50, ça fera 1 x 50 et du coup, vous ferez 50 euros d'un coup.
Okay. Alors, pour essayer de guider, ça ressemble à un double dragon. Voilà.
Voilà.
Ouais, c'est ce qu'on appelle un beat'em all, c'est voilà. Et donc c'est un jeu 2D. Alors, moi j'étais surpris parce que je pensais que c'était presque une blague quand je l'ai vu sortir. Et non, c'est un vrai jeu.
C'est un vrai jeu
avec une vraie jouabilité, une vraie difficulté, etc. C'est pas juste un.
C'est propre en plus.
Voilà, c'est ça.
C'est gratuit, complètement gratuit.
Jouable sur navigateur. Gratuit.
Et le jeu peut faire passer aussi le message politique, mais de manière assez subtile. C'est-à-dire que bon, il fait des clins d'œil à toutes les affaires politiques qu'on a pu voir. Moi, je suis bloqué, par exemple, à Madame Bettencourt. Et justement, vous la rencontrez et Madame Bettencourt dit « Mais ça ne sert à rien de venir me fouiller. J'ai déjà donné l'argent à Monsieur Sarkozy. » Du coup, c'est super drôle. Ou à un moment, vous voyez Mélenchon qui se téléporte dans la Sarthe avec son hologramme pour mettre une déculottée à Fillon. C'est super drôle. Et en fait, quand vous perdez, Et ben vous avez un petit message pour dire, en fait, contribuer à résoudre le problème du trésor public. Et en fait, tout l'argent que vous avez récolté, il va dans une jauge qui est remplie, en fait, au début, c'était pour, par exemple, réussir à financer le programme de Jean-Luc Mélenchon.
D'accord.
En disant, bah voilà, là, avec ça, ça a donné, par exemple, 10% pour le programme de Jean-Luc Mélenchon. Et maintenant que ça a été financé entièrement, le programme de Jean-Luc Mélenchon, maintenant, en fait, dès que vous jouez, c'est pour essayer de rembourser la dette. Du coup, là, d'accord, il faut faire 220 milliards pour oui, réussir à rembourser la dette. Et du coup, c'est un jeu assez participatif. Ça permet d'avoir quelques informations sur le candidat et c'est plutôt rigolo.
Non, c'est une bonne version de.
C'est vachement
voilà, c'est plus sympa qu'un discours, qu'un papier. Mm-hmm. Voilà, c'est une version moderne d'un
et
truc
voilà.
Politique.
Et du coup, d'autres rigolos ont voulu faire la même chose. On fait un jeu qui est extrêmement nul. Je le mets en comparaison. Vous allez sur le site sauvonsfillon.fr et vous vous retrouvez avec un jeu très mauvais où en fait vous voyez des juges et il faut sauter par-dessus pour éviter les juges. Et
comme, comme Angry Birds quoi finalement.
Pas Angry Birds, non, faut sauter par-dessus, c'est-à-dire plus un peu à la...
un
jetpack un peu.
Ah oui, ok.
Un peu un jetpack joyride. Ouais. Et en fait, à chaque fois que vous sautez par-dessus un juge, vous avez 10 jours. Et du coup, faut essayer de passer plus de jours sans se faire attraper par les juges. Et le jeu est vraiment pas terrible, la zone est mauvaise, etc. Voilà, alors que par exemple, le jeu de Jean-Luc Mélenchon est en pixel art très joli.
C'est un vrai jeu.
C'est-à-dire que quand vous lancez un ulti en fait avec le bouton espace qui fait un combo très fort, et ben vous entendez la voix de Mélenchon en mode Ubi qui fait hypocrite. C'est exceptionnel. Je vous conseille d'y jouer, même si vous aimez pas forcément les idées. Je trouve que le jeu est très fun. Oui.
Juste pour l'initiative et ce côté un petit peu nouveau, innovant.
Voilà. Ce qu'il faut dire, c'est pas les gens pourraient penser, oui, Jean-Luc Mélenchon essaye de s'approcher des jeunes, mais non. L'initiative vient d'une bande de fans qui ont voulu faire un jeu pour lui rendre hommage. Il faut pas oublier que c'est dans ce sens-là, c'est pas dans l'autre sens. C'est pas genre Monsieur Mélenchon qui s'est dit, on va faire un jeu comme ça, les geeks qui viendront voter pour moi. Mm. Et ça, faut pas l'oublier. Et comme dirait Jean-Luc Mélenchon,
excusez-moi, ça m'a fait du bien.
Voilà. C'était le mot de la fin.
C'est la meilleure sunboard de la vie quand même.
Et du coup, on connaît un peu les développeurs qui sont derrière ce jeu.
Alors, tu peux leur poser des questions sur le Twitter de Fiscal Combat, donc voilà, @FiscalCombat, ou alors sur le Discord Insoumis. Tu peux aller voir, et sur la chaîne YouTube de Jean-Luc Mélenchon, ils ont fait une petite vidéo où vous pouvez voir Jean-Luc Mélenchon en train d'essayer le jeu sur son Mac, et c'est assez rigolo.
Voilà. Cool. Du coup, est-ce que je continue ou est-ce que c'est à toi, Ferdi? C'est comme tu le sens.
Bah, on peut commencer. On va parler un peu de Azura Wrath.
Allez, vas-y, je t'en prie. Pour l'instant, il n'y a pas de musique à balancer. Si, il y a ton coffre de Ferdi.
Oui, moi, je mets petite musique.
Effectivement.
Alors, Azura Wrath, c'est ce petit jeu-là, hein, pour ceux qui ne connaissent pas.
Attends, je vais l'approcher de la caméra.
Approche
si de
la caméra. Voilà.
Est-ce qu'on est au prix seulement de 9,99€.
On le verra dans quelques
magasins.
Secondes, hein, sur le live. Je crois qu'il y a un petit décalage.
Pas, voilà. Ouais. On vous déconseille d'écouter et la radio et live. Ça va être insupportable.
Sinon, vous allez dans le futur et dans le passé.
Voilà. En même temps.
Voilà, là, je le laisse un petit peu. Voilà, hop, ça va être bon. Ce sera bon pour tout à l'heure. Là, voilà. Ferdi a à peine en train de montrer.
Donc, c'est un jeu qui est sorti sur PlayStation 3 et Xbox 360. Un jeu développé par CyberConnect. Alors, CyberConnect, c'est un studio qui a créé les Hack, une série de RPG. Slash manga, slash dessin animé, slash RPG, slash saga en 4 volumes, slash très long, très sympa.
Slash Guns N' Roses.
C'était un petit peu Sword Art Online 10 ans avant,
c'est
finalement.
Ça valait pas le coup. Qui ont développé les Naruto, les très bons jeux Naruto.
Oui, ceux sur 360, ouais, qui étaient très bons.
Qui étaient très bons, très épiques.
Excellent.
Les Ninja Storm.
Voilà, ouais,
c'est ça.
Et qui sont associés après avec Capcom pour faire Azura Wrath. Alors, c'est un jeu qui est unique. Il n'y a pas eu de 2, il n'y a pas eu de 3, il n'y a pas de réutilisation du perso, hein, c'est Capcom. Pour une... Capcom, si tu m'entends, s'il te plaît.
Étonnant.
Oui, non, mais c'est surtout un petit message pour Capcom, s'il te plaît. Fais quelque chose, hein, t'as fait 6 Megaman, est-ce que tu peux faire un deuxième, une petite suite, ou réutilise ton perso. Alors, c'est l'histoire, si on suit Azura, qui est une sorte de demi-dieu, donc c'est les incarnations, c'est demi-dieu, il y en a 8, si je ne me trompe pas dans le jeu, donc c'est les 8 généraux célestes, et c'est les incarnations chacun d'un mantra. Donc par exemple, Azura, le héros, c'est l'incarnation de la colère, comme le titre. Et en fait, dans le jeu, il est trahi par ses pairs, donc les autres généraux, après une bataille qui contre Vitra. Alors Vitra, c'est le maître des Gomas. Dans le jeu, les Gomas, c'est la représentation de tous les maux de la terre, de tout le mal des humains, etc. Et donc voilà, il est trahi par les autres généraux et il va devoir les combattre et rattraper sa fierté. Donc c'est un jeu, c'est un beat'em all, jeu de shoot, alors beat'em all, donc jeu de combat, on bat des vagues d'ennemis, jeu de shoot et jeu à boutons. Mm-hmm. Voilà, oh, j'ai
un jeu David Cage,
quick time event. Un voilà. Film interactif. Alors les défauts du jeu, c'était ça, c'était sur les gens qui ont craqué le jeu, qui ont dit du mal, c'est il y a très peu de jeu en fait, il y a pas très peu de jouabilité, il y a très peu de gameplay. Le gameplay est assez simple, les séquences de beat'em all où on se bat contre des vagues d'ennemis, c'est trois boutons. Les séquences de shoot, c'est on déplace le cœur sur on tape, et puis il y a tout le temps beaucoup de cinématiques. Il y a je crois 70% du jeu, c'est des, non, 80% du jeu, c'est des cinématiques. Et où la seule interaction, ouais.
Ah, la seule interaction, un bon 80%.
Ouais, et la seule interaction, c'est d'appuyer sur carré, triangle, croix, rond. Et les joysticks. Voilà. Les qualités, c'est que visuellement, c'est très beau. Il y a une visuelle un peu mythologie hindouiste, mythologie indienne. Mmh. Voilà, donc ça c'est très typé. Beaucoup, ouais. Avec un mélange de science-fiction, donc avec des vaisseaux spatials, des lasers, etc.
Spatiaux.
Un.
Deux.
Allez, on continue. Star Citizen.
c'est super beau, c'est assez long mine de rien pour un film interactif comme dirait les autres, c'est pas mal d'heures de jeu.
C'est à peu près quoi, 10-15, entre 10 et 15.
C'est ça, c'est non, c'est
je dirais une dizaine d'heures moi.
C'est 19 chapitres.
Ah oui, oui, ah oui, il y a quand même 19 chapitres,
ouais, qui font à peu près une demi-heure chacun. Ouais. Entre une demi-heure et 40 minutes chacun. Donc ouais, il y a bien ça dure bien longtemps. Alors à l'époque, il y a eu une quand il est sorti, les gens ont gueulé, ont dit ouais, la fin était disponible en DLC plus tard. Donc Capcom avait fait une erreur. Maintenant, si vous achetez le jeu ou si vous l'avez à la maison, ils n'avaient pas ça. Vous installez le jeu sur votre Xbox 360 ou votre PS3, ou vous l'achetez en démat
et vous avez déjà tout.
Et vous avez la fin. À part, il y a deux DLC qui sont pas offerts. C'est deux dessins animés qui sont des petites ellipses de l'histoire et un DLC de finale qui est un bonus où Azura Wrath. Donc le personnage Azura se bat contre Ryu de Street Fighter dans une partie de Street Fighter et contre Akuma de Street Fighter.
Ce qui était un peu voilà. D'ailleurs dommage parce que moi, quand c'était sorti, c'était la grande sortie de Ultra ouais. SF4 ou Super d'ailleurs, je sais plus, un de ceux-là, de SF4. Et je m'attendais mais tellement à ce qu'ils mettent le personnage d'Azura dans SF4 et ils l'ont pas fait. Ouais. Et c'est tellement une opportunité ratée.
En fait, il y a une mini phase de jeu en fait, où on joue vraiment une partie de SF4 avec. Les coups de SF4, le focus, coups spéciaux, etc. Et il colle totalement. Alors, il est un peu pété. Ouais, aussi pété qu'Akuma, que les Akuma qu'ils ont fait, quoi. Donc, voilà. Et en fait, moi, j'ai lu beaucoup de critiques négatives sur. Il y a eu beaucoup de critiques négatives sur Azura Wrath, mais pour moi, c'est un des jeux majeurs. Parce que, déjà, pour la BO, mon petit game, est-ce que tu peux mettre l'OST, s'il te plaît ? Alors, c'est pas l'OST, comme dit Tom, c'est un passage de musique classique qu'ils ont rajouté. Et. Voilà. Mais sur les enceintes, faut que tout le monde en profite.
Non, ça va faire des arsènes, excuse-moi.
Ah, d'accord. Alors là, ce qu'on entend, c'est la symphonie du Nouveau Monde de Dvorak. Et donc, c'est la musique qui est sur un niveau. Juste pour vous expliquer un peu, le jeu est fou, le jeu est épique. On est sur la Lune, on est face à Angus, qui est un de nos frères. Et là, le jeu devient dégénéré. C'est-à-dire qu'on se bat sur la Lune, l'ennemi a une épée qui peut s'agrandir à 20 mètres. La Lune est coupée en deux. Le combat, c'est. Vous voyez Dragon Ball Z, vous voyez les plus gros shonen, les plus gros mangas, ben vous les multipliez par 10 dans un jeu vidéo. Ça veut dire que c'est un combat ultra rapide, ultra bourrin, et à la fin, il vous donne un coup d'épée qui vous transperce jusqu'à la Terre. Donc vous êtes sur la Lune, vous arrivez jusqu'à la Terre, et l'épée vous transperce et transperce la Terre. Voilà.
Rien que ça.
Oui, rien que ça. Il y a Wizard, c'est un des boss qui grossit, donc c'est un boss au début il est un peu gros, après il est un petit peu géant, après il fait genre 20 mètres de haut, 100 mètres de haut, et à la fin il fait la taille de la. Il fait deux fois la Terre. Et son pouce fait la taille de, je sais pas, du continent africain quoi. Et ils essayent de vous écraser. Il y a des phases aussi avec un autre personnage qui s'appelle Yasha, donc c'est un autre général que vous jouez, qui a une vitesse démentielle, donc ça veut dire que ces phases de jeu, on dirait du F-Zero, on dirait un jeu de course ultra rapide. Avec une musique western, il y a Deus, donc le grand général, c'est un espèce de Zeus, c'est un mec qui contrôle les éclairs, bah, on a l'impression d'être contre Freezer dans Dragon Ball Z, quoi. Mm. C'est-à-dire qu'en fait, le jeu, quand il vous demande d'appuyer sur un carré ou triangle ou rond, dans les autres jeux, genre David Cage, c'est on ouvre une porte, ou dans les QTE quelques-uns qu'il y a eu, c'est on évite un coup. Non, là on détruit une planète, là on détruit un vaisseau de la taille d'une lune, là on donne 50 coups de poing face à quelqu'un. En fait, c'est les manips que l'on fait en appuyant sur un bouton, ce sont des manips qui seraient infaisables à faire en manipulation manette. Mm. Ce seraient les coups spéciaux ultimes, 3 fois arrière, 4 fois triangle, 5 fois R1. Et là, en appuyant sur un seul bouton, on a l'impression d'être un dieu, quoi. Et en fait, Azura, c'est ça, c'est l'épicness, c'est épique du début jusqu'à la fin, mais il n'y a pas photo. Et même dans la jouabilité, le fait d'avoir un gameplay aussi épuré, renforce l'impression de toute puissance en fait. C'est-à-dire que t'as vraiment l'impression d'être ultra puissant en appuyant sur un bouton, t'arrêtes une montagne. T'arrêtes une boule de feu géante, enfin avec un seul bouton, un seul doigt quoi.
C'est très Dragon Ball en fait.
C'est ça, c'est totalement ça.
T'as
vraiment l'impression. En fait, ils arrivent avec ce gameplay puré à donner la même impression de force que si t'étais Azura. Voilà. Donc pour moi, Azura c'est quelque chose qui est passé malheureusement inaperçu.
Voilà. Oh, pas tant que ça. Si.
Ouais, quand même.
Il a quand même fait un joli bide.
Ouais, okay. Il a fait un joli bide. Donc c'est un jeu qui va remonter dans l'estime si vous êtes. Collectionneurs de jeux vidéo anciens, etc. Foncez dessus, allez les acheter parce que c'est des jeux que dans quelques années il y a des gens qui vont commencer à se mordre les doigts de ne pas les avoir achetés. Puis même, c'est une expérience. Alors c'est sûr, c'est pas un jeu vidéo énorme. D'accord, mais c'est une expérience.
On en parlait juste avant l'émission. Moi, j'ai beaucoup aimé le jeu. Alors, moi qui pourtant aime beaucoup les jeux à gameplay. Hein, c'est-à-dire que les jeux David Cage, je chierai dessus dans une émission quand on en fera. mais Azura's Wrath, j'ai aimé. Alors que c'est plus ou moins la même chose sur le papier.
C'est ça.
Et pourquoi ? C'est parce qu'en fait, déjà, ça s'assume et que c'est quand même ultra dynamique. Il y a un petit peu de scoring aussi.
Oui.
Ce qui est quand même un peu intéressant, ce qui permet de pas trop se désintéresser des Quick Time Events. Et surtout, ouais, voilà, c'est un jeu qui est vraiment over the top. On peut y jouer juste 20 minutes, puisque c'est découpé en chapitres.
C'est ça.
On peut juste y jouer voilà, le temps dans l'épisode et on a vraiment l'impression de suivre un manga, en fait. Et moi, je trouve que c'est ça la force du jeu, en fait. C'est d'être à la limite entre les deux, mais tout en étant bien dans les deux cas. C'est-à-dire c'est bien si on le prend comme un manga, c'est bien si on le prend comme un jeu. Et donc, du coup, ça satisfait les deux côtés, quoi.
Alors, pour conclure, la dernière version, c'est Azura, le personnage. Il y a des rumeurs, donc Marvel vs Capcom Infinite, le prochain. Jeu de Marvel vs Capcom qui va sortir, donc il va sortir au mois de juin. Il y a eu des teasers comme quoi il y aurait Azura dans les personnages jouables.
Ça pourrait être cool.
C'est que j'espère juste ça, parce que Azura contre Iron Man ou Thanos, enfin voilà, c'est. Voilà. Donc voilà, c'était ma petite chronique sur Azura's Wrath.
Très bien, merci.
Jouez-y, téléchargez-le sur la PlayStation Store ou le Xbox 360, je sais plus comment ça s'appelle. Xbox Store, c'est ça? Non, ça s'appelle comment déjà?
Xbox Live.
Putain, j'avais oublié. Ouais. Et régalez-vous.
Ok. Voilà. Et ben moi du coup je vais vous parler de Graceful Explosion Machine, un jeu qui est sorti en exclusivité sur Switch il y a pas si longtemps. Voilà, la game a mis un petit peu le son. On va tenter une expérience pour ce test. Je vais demander si quelqu'un a envie de jouer en direct devant la caméra. Est-ce que Guillaume, là tu te sens, là t'as juste à
mettre. Attends, sinon on va savoir s'il est humain ou pas.
On va savoir s'il est humain
ou pas. Vas-y, montre-toi un petit peu, montre tes avant-bras.
Montre tes bras.
Est-ce que c'est un androïde?
Et voilà.
Donc, il existe.
Et Guillaume va jouer en direct devant la caméra. Donc je vais faire ma chronique en même temps que Guillaume joue. Donc en ce moment, effectivement, c'est un jeu qui m'a pris beaucoup de temps. C'est rare que je sois autant intéressé par un jeu. Pour résumer le principe, il s'agit donc d'un enchaînement de niveaux fermés en arène, hein, dont vont arriver des grosses vagues d'ennemis allant du simple troufion là, que vous voyez à l'écran. Là, vous allez voir les armes, voilà, là, Guillaume se fait déjà bien défoncer. Les petits troufions bleus là, qu'on voit effectivement à l'écran, allant jusqu'au gros ver des sables hyper violent, hyper dingue. Les commandes sont très simples. Les boutons de droite servent aux armes. Le tir de base qui est avec B, que Guillaume vient de faire voilà, en direct exactement à ce moment-là. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a un espèce de rayon de la mort, il y a un espèce de cercle qui tourne autour de vous et il y a un espèce de lancer de missiles géant où effectivement tu peux balancer des missiles partout dans tous les sens pour commencer à nettoyer un petit peu la zone. Le bouton R permet de dasher très vite jusqu'à deux fois d'affilée pour éviter un petit peu les ennemis et pour un petit peu t'éloigner de là où ça commence à chier un petit peu. Et le bouton L permet de retourner le vaisseau sur la droite ou la gauche, histoire de pouvoir switcher un petit peu. Là où ça demande patience et stratégie, c'est que chaque arme n'est pas toujours adaptée à chaque ennemi, donc le troufion de base, une sorte de larve verte, hein, se fait tuer à chaque tir de base. Sa version évoluée, qui est un truc bleu un petit peu plus gros, prend 3 coups ou un seul coup de rayon de la mort, par exemple. Mais en plus, le jeu évolue au fil des 36 niveaux avec des ennemis de plus en plus vicieux et coriaces, hein, donc il y a 4 planètes, 9 niveaux, 9, voilà. Allant du ver des sables qui devient invincible au bout de 3 coups, c'est-à-dire qu'il commence à se jeter sur toi, donc il faut que tu t'éloignes le plus vite possible, avec des espèces de têtes de Isaac, vraiment des copies conformes, qui, avec des tentacules qui repoussent totalement et qui essayent de te choper sur le passage, ou des espèces de monolithes que j'appelle les monolithes de No Man's Sky, qui sont des copies conformes, et tu peux buter en un ou deux coups de rayon de la mort, et qui balancent des rayons à travers les murs, hein, c'est un petit peu chiant, assez varié. Chaque niveau se découpe en 3 phases, chacune faisant office de checkpoint. Quand tu arrives au bout d'une phase, ça sauvegarde et tu peux recommencer et tu as 2 vies, bien sûr, toi de ton côté au maximum. De temps en temps aussi, de manière aléatoire, un ennemi peut lâcher un item, bon là on le verra peut-être pas, mais il peut lâcher un item vert qui te permet de récupérer un carré de vie. Tu as 3 carrés de vie par vie avant d'en perdre une définitivement.
Voilà, puis effectivement, il faut une utilisation optimale de l'environnement et aussi d'une espèce, vous voyez en bas, il y a une espèce de barre de chauffe, là, vous voyez, il y a un petit triangle en bas. C'est une petite barre, quand tu utilises trop tes armes, bien sûr, elles se vident, donc il faut aussi gérer ça pour ne pas se retrouver complètement assailli d'ennemis, de... voilà. Une fois que tu as commencé à bien tuer les ennemis, là, il y a une barre en haut qui va apparaître avec le nombre d'ennemis restants. Là, c'est vraiment la phase où tu dois essayer de survivre jusqu'au bout. Au départ, c'est la phase d'observation, tu te cherches un petit coin tranquille, même s'il n'y en a pas. Et je rappelle aussi que les niveaux vont de droite à gauche, mais en boucle. C'est-à-dire que quand tu arrives en plein sur la droite du niveau, tu retombes sur le début de la gauche, donc il n'y a pas d'échappatoire possible. Tu ne peux pas aller dans un coin ou rester complètement bloqué. Ça va vite, hein, comme vous le voyez, ça tire de partout, il y a des ennemis partout. Là, c'est dans les premiers niveaux, donc ça peut aller encore. Mais effectivement, plus ça va, plus tu peux enchaîner les ennemis pour faire des combos et bien sûr exploser le nombre de points. L'idée, c'est surtout que c'est un jeu de scoring à la base. Les planètes, c'est vraiment pour t'entraîner. Après, tu as tout un système de scoring où tu peux enchaîner absolument tous les niveaux en une seule vie, ce qui est hyper balèze. Et ça commence déjà à pas mal ce jeu. Je crois que je suis dans les 400 premiers mondiaux pour l'instant, mais je crois que j'ai dû baisser. Depuis quelques jours.
Alors j'aime beaucoup ce jeu, j'y ai joué un petit peu tout à l'heure.
Ouais.
J'aime beaucoup parce que c'est des jeux de shoot que, comme je les aime bien, parce que c'est ultra lisible en fait. Ouais. Le fait d'avoir choisi des graphismes épurés comme ça rend l'action ultra lisible tout le temps quoi.
Voilà. Ouais, et ce que je disais, voilà, c'est hyper coloré, hein. Vous avez vu, c'est les couleurs un petit peu pastel, la jouabilité, Guillaume peut le confirmer, hein, c'est au poil, non, ça répond super bien. Ça ne rame pas, c'est absolument super fluide.
Ah, encore heureux là pour le coup.
Et effectivement, la musique électro est super sympa, reste dans l'ambiance, rien d'exceptionnel, mais ça reste tout à fait jouable. Tom, tu avais peut-être une question.
Alors, c'est pas vraiment une question plus qu'une remarque, c'est un mix des deux, on va dire. Est-ce que c'est disponible sur autre chose que Switch ?
De mémoire, non, c'est une exclusivité, en tout D'accord. cas temporaire Switch.
Donc, si vous voulez jouer à le même jeu. Mais sur PC, qui est la meilleure console, vous avez un jeu qui s'appelle Aqua Kitty sur PC, qui est la même chose avec du graphisme en pixel art. C'est les mêmes cercles de niveau, c'est les mêmes touches, c'est-à-dire c'est ce que je t'expliquais au début, c'est se retourner, etc. C'est quasi pareil. C'est pas loin des mêmes armes, donc moi ça me le rappelle vraiment. À part les graphismes qui sont complètement différents, mais jusqu'à l'électro en fait, c'est quasi le même jeu. Donc testez si vous avez pas de Switch. Et vous pouvez tester sur PC Aqua Kitty.
En tout cas, si vous avez une Switch et que vous en avez marre de Zelda, faire une petite pause entre deux parties de Zelda, vous pouvez tout à fait vous le procurer pour 12,99€. C'est pas non plus énorme et la durée de vie, il m'a pris à peu près 8 à 10 heures pour être fini. Et donc, c'est un excellent jeu. Donc voilà, c'était vraiment, je voulais vous le montrer en direct et ça a l'air de bien marcher, hein, visiblement. On voit plutôt bien la caméra. Donc,
c'est un jeu sympa.
Tu le recommandes à 12€
Je le recommande au prix maximum. Okay. Honnêtement, je pense que c'est pas perdu. Même si t'as envie, en plus si t'as envie de faire du time attack après, c'est des heures.
C'est un jeu fait pour du scoring pur. Quoi.
Voilà, donc une très bonne surprise que je m'attendais pas et voilà.
Et donc c'est disponible sur le store de la Switch.
Sur le store de la Switch, ça profite de la vibration HD d'ailleurs, juste à en parler. On ressent en fait vraiment les vibrations suivant l'endroit où ça a été donné, soit à droite, soit à gauche. C'est pas complètement convaincant, j'attendrai un autre jeu qui les utilise un petit peu mieux que ça, mais c'était déjà très sympa comme ça. Voilà, je crois que Guillaume a bien... Je vais récupérer la Switch, et voilà. Qu'est-ce que t'en as pensé, Guillaume, du coup ?
C'est sympathique, c'est très réactif, je pense, bon, après, avec dans de meilleures conditions,
oui,
ça aurait été
sûr,
un peu mieux.
Oui, bien sûr.
Mais je voulais rebondir sur ce que tu dis sur les vibrations HD. À ce pareil, il y a un jeu qui va sortir où ils ont designé les vibrations HD pour avoir l'impression que ce sont des seins que tu touches.
D'accord,
mais c'est génial.
Ça, c'est l'avenir.
Attends, c'est le futur.
Sur Switch, ouais.
C'était la news sexiste du jour, impeccable.
Ils ont Nintendo, ils ont pas
Nintendo, c'est un développeur.
Ah, tu m'as fait peur.
C'est un jeu japonais.
Ah oui, d'accord.
Tu douterais. Ils ont essayé de designer les vibrations pour que la personne qui est avec son Joy-Con ait l'impression de toucher un sein.
On vous fera une démonstration en direct aussi quand ça sortira. Guillaume vous fera une démonstration.
Et donc, les Joy-Con porteront très bien son nom en fait.
Voilà. Exactement. Bon, bah voilà. Et bah c'est tout pour moi.
Petite question juste. Il y a un mode multi ou pas avec le jeu ?
Non, il y a pas de mode multi.
De coop, rien.
Non, c'est juste des classements en ligne.
D'accord.
Pour cette fois-ci, peut-être dans une version 2, peut-être dans une mise à jour, je ne sais pas.
Ça pourrait être sympa en coop, je pense.
Comme dans Aqua Kitty,
par exemple. Peut-être un peu bordélique parce que ça demande vraiment une organisation de fou déjà tout seul.
Avec la Switch avec deux écrans.
Ouais, mais c'était plus ça en fait.
Ah,
en local avec un pote.
Ouais,
ça peut être sympa.
On pourrait le tenter. on verra de toute façon. Je vous tiendrai au courant. C'est un jeu que j'aime beaucoup, donc j'y reviendrai si jamais il y a des améliorations à venir.
On va se faire une petite pause musicale.
Je proposerais plutôt qu'on enchaîne parce qu'on est un peu à la bourre, il est 40.
On est vachement à la bourre, effectivement.
Donc je propose qu'on parle directement de débat du thème du jour.
Effectivement, cette fois-ci, on va parler de Persona. Voilà, vous le voyez, il est là.
Il est partout.
C'est Persona. Premier, effectivement, c'est un... Est-ce que Tom veut nous en parler? Je crois que c'est...
Oui, alors voilà, c'est trop bien. À la semaine prochaine.
Achetez toutes les sagas Persona.
Achetez toutes les sagas Persona.
Globalement, dis-nous ce que c'est. Moi, je reviendrai sur les origines de Persona.
Persona, c'est donc un spin-off, donc un dérivé, en fait, voilà. D'une série qui s'appelle Shin Megami Tensei, donc une série un peu tentaculaire. Persona, dans les Persona, en fait, le principe, c'est qu'on va jouer un étudiant pendant une année de lycée, qu'on va jouer jour par jour, en fait. Mm-hmm. On va jouer tous les jours. Alors évidemment, on peut faire plusieurs jours en une session de jeu, hein. C'est pas un jeu, c'est pas Kawashima, c'est un RPG japonais, vraiment pure tradition, mais en même temps avec des petits morceaux de groove dedans, comme par exemple le fait que donc on va avoir deux phases de gameplay, une phase qui ressemble un petit peu à du dating sim en fait, plus ou moins, c'est-à-dire qu'on va devoir gérer sa vie d'étudiant, est-ce qu'on va bien en cours, est-ce qu'on drague les gens, est-ce qu'on est intelligent, est-ce que si, est-ce que ça, et le reste du jeu, ça va être un jeu donc où on va explorer une sorte de monde des ténèbres, donc ça change selon les jeux évidemment, mais à chaque fois on va devoir taper du monstre dans un setting un petit peu fantastique, et ouais. Donc c'est la différence entre les jeux qui fait toute la thématique en fait de cette série.
Ok, alors moi j'apporte quelques petits détails. En fait, Persona, c'est un spin-off de spin-off, hein. C'est le spin-off d'un spin-off de Shin Megami Tensei qui s'appelait Shin Megami Tensei If, qui est sorti en 1994 sur Super Famicom, donc exclusivement au Japon, qui à l'époque narrait les aventures d'un étudiant qui était coincé dans son école infestée de démons. Mm. Il devait traverser 5 tours qui correspondaient aux 7 péchés capitaux, je ne sais pas pourquoi. Il y avait déjà système de recrutement de démons, comme dans Persona 5 notamment.
Et surtout, en fait, les Shin Megami Tensei à la base, en fait, voilà, où on devait capturer les démons.
Avec la possibilité de leur parler ainsi qu'une génération aléatoire des boss et de certaines parties du donjon.
D'accord.
Donc, c'était vraiment les bases qui étaient déjà posées. Mm. Le premier Persona, il apparaît en 1996 sur PlayStation, c'est ce jeu-là qu'on a amené aujourd'hui, qui n'est jamais sorti chez nous.
L'année de ma naissance.
L'année, quasiment. Sous le nom de Révélation Persona, à l'époque, ça s'appelait. Donc ça, c'est vraiment le tout premier. Le deuxième, il n'apparaîtra qu'aux USA et au Japon sous le nom de Persona 2 Eternal Sin. Mm. Le premier et le deuxième seront réédités sur PSP quelques années plus tard, entièrement en anglais et disponibles en France. Mais c'est vraiment à partir du 3 que la série a commencé à exploser et à avoir cette popularité et ce côté vraiment pop culture. C'est vraiment inscrit profondément. Donc le 3, c'est celui-là. Ça, c'est la version FES qui contient un petit scénario supplémentaire. Donc c'est un jeu qui est...
Trop stylé.
C'est un jeu qui est trop stylé.
Faut aussi parler aussi, mine de rien, un peu des thématiques du jeu. C'est un jeu qui aborde des thématiques, alors ça dépend lesquels, surtout le 3 et le 5, relativement matures. C'est ça qui est chouette, c'est que certes on va jouer un lycéen, etc., et que des fois l'immersion peut être un petit peu différente selon l'âge des personnes qui y jouent, mais par exemple dans Persona 3, la thématique principale, ça reste le suicide, donc c'est quand même un jeu qui en plus se passe au Japon, donc Persona 3, c'est quoi, ça date 2004,
2002 même, 2002, voilà. Je sais, à l'époque, c'est très vieux, hein.
À l'époque, des jeux qui parlent de suicide, il y en a un total de 0. Donc voilà. Et depuis, il y en a un total de genre 2 peut-être.
Ouais, c'est
voilà.
Ça.
Donc faut pas oublier que c'était des thématiques qui étaient bien abordées dans le jeu, même s'il faut pas oublier quand même, il y a des moments qui sont un peu cringe, hein, dans la série. Mais c'est vraiment excellentissime au niveau des thématiques. Si vous voulez tester un RPG qui fait des trucs à l'ancienne et des trucs hyper nouveaux, Persona, foncez quoi.
On rappelle que Persona, les Persona aussi, c'est un reflet de la personnalité des héros,
exactement.
Et des gens qui sont du coup dans le jeu, voilà. Effectivement. Le 3, en fait, le 3 avec cette particularité, tu parlais du suicide, notamment pour invoquer leur Persona dans le 3.
Café polémique,
les protagonistes se servent d'un
sorte de pistolet.
D'un pistolet magique, qui se met sur la tempe, il tire et leur Persona apparaît à ce moment-là.
C'est ça.
Donc voilà, on sent déjà l'ambiance, tu vois, assez lourde, assez glauque. Il y a des thématiques qui sont aussi assez lourdes et en même temps hyper japonaises.
Ouais, voilà.
Tu vois, t'as tout ce côté, genre, il y a toujours soit un panda qui parle ou un chat.
C'est ça.
Ou un chat qui parle.
Il y a toujours une mascotte.
Il y a toujours une espèce de mascotte débile.
Par Persona, il y a toujours une mascotte.
Effectivement. Alors, le 3 est très froid. C'est un jeu très froid qui est peut-être dur à aborder, hein, je pense, maintenant, je sais pas, quand on a un joueur...
Alors, on a refait le début, il y a 2 ans, avec un ami, et en fait, ça a plutôt bien vieilli. Après, je pense que le meilleur point d'entrée dans la série, ça doit être le nouveau, le 5, qui est vraiment, qui est le GOTY, hein. je pense que le plus dur à aborder, ça doit être peut-être les premiers, les 1 et 2.
Ah oui, ça, mais j'ai essayé, voilà. C'est impossible.
Après, le 4 a vraiment une lenteur dans le jeu, mais ça fait aussi partie justement du plaisir de jeu. C'est que justement, vu qu'on met du temps à arriver à certains points scénaristiques, à certaines choses, ça les rend d'autant plus intéressants. Néanmoins, je dirais que le plus influentiel entre le... Ça se dit, oui.
On va dire influent.
Entre le 3 et le 4 sur tout ce qui sur la série, c'est de loin le 3 qui a vraiment lancé la machine. Quoi.
C'est clair. Et effectivement, une ambiance très froide. Alors, on rappelle qu'il y a deux phases. Une phase où, effectivement, tu es un jeune lycéen qui doit réussir ses cours, doit aider les gens et développer,
Des liens. Alors, ça vient à partir du 3, en fait. Mais en gros, le but, c'est d'être le plus pote possible avec ses potes. Voilà. De ne pas être quelqu'un d'asocial.
Alors, tu peux être pote avec des mecs de ton lycée ou avec des petits vieux qui traînent dans une librairie. Tu essayes de les aider. Tu développes des nouvelles capacités, donc des nouvelles personas. Effectivement, ça t'aide. Ça t'influence dans le jeu et la nuit, effectivement, tu pars dans une espèce de tour à je crois une
sorte de Tartarus. Donc, c'est dans le 3 parce que le monde des ténèbres change à chaque fois dans les personnages. C'est ça qui est plutôt justement rigolo.
Tu dois avoir plus d'une centaine d'étages et c'est limité à partir de certains moments. Et effectivement, il faut tout faire en une année scolaire puisque tu as des choix limités par jour. C'est-à-dire, tu peux aller voir des amis, soit aller directement combattre dans le Tartarus, soit voilà. C'est vraiment des choix à faire et c'est une aventure exceptionnelle qu'on vous conseille.
Là, il y a le 5 qui vient de sortir, donc ne loupez pas.
Sur PlayStation 3 et PlayStation 4.
Il faut qu'on parle un petit peu de l'OST aussi, qui est juste incroyable.
L'OST qui est du génie, je crois que j'avais mis un bout d'OST dans les musiques, mais j'en suis pas sûr du tout.
Si, il y avait ça.
Alors, je crois que c'est celle du 5.
Il y a un petit peu de tout, il y a du jazzy, il y a de la pop. Voilà. Là, du coup, ça, c'est l'intro du 3 qu'on entend,
c'est,
je crois.
Je crois que c'est le 5, ça.
Je crois que c'est le 3, ça. À vue de nez.
Ok. Donc effectivement, le 3, on vous le recommande. Alors, la thématique, moi, j'ai trouvé un truc intéressant au côté des couleurs. Mmh. La couleur dominante de Persona 3, c'est le bleu. Ça, on l'a bien vu sur plein d'aspects. Et ce que j'ai cherché une petite recherche Google. Le bleu est l'écho de la vie, du voyage et des découvertes au sens propre et figuré, introspection personnelle.
Mmh. Vous n'avez pas changé d'émission de radio.
On n'avait pas changé d'émission de radio. Voilà. Il y a une version aussi PSP.
Ça fait la pub lance, quoi.
Oui, qui est absolument géniale et dure à trouver, hein, d'ailleurs, maintenant.
Alors, génial, moi, je dirais que je vais nuancer ça, parce que certes, c'est hyper cool de pouvoir jouer à Persona 3 portable donc sur PSP et par exemple de jouer une fille, ce qui change vachement. Mais ils ont enlevé les cinématiques. Ouais, donc voilà, à quoi ça sert de faire un remake si c'est pour enlever des trucs.
C'est vrai.
C'est-à-dire que donc Persona a des cinématiques en dessin animé qui sont hyper bien.
Ouais.
Et du coup, mais pourquoi ça sert à rien.
C'est
pareil, ils ont enlevé les déplacements, ils l'ont remplacé juste par des menus.
C'est
donc,
vrai, ça
oui,
c'est chiant.
Mais non, c'est ballon sur un.
C'est comme Kingdom Hearts sans les voix. Quoi.
Ouais, voilà, c'est un peu comme on vous a mis Kingdom Hearts 3D dans la version PS4, mais il n'y a que les cinématiques.
Ouais, c'est ça.
Et c'est pour ça qu'on va en venir du coup à Persona 4, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps déjà, et que Persona 4, donc c'est celui-là,
celui qui est jaune.
Un des derniers jeux de la PlayStation 2.
Persona 4, c'est l'antithèse totale de Persona 3 pour moi au niveau de l'ambiance. Au niveau de l'idée, c'est une ambiance pop, fun, colorée, hyper joyeuse en fait.
C'est,
hein. c'est super cool. La couleur dominante, le jaune là, qui est équivalent à la gaieté, le couleur
taxi
du soleil,
driver.
Voilà, tout le côté assez fou. La thématique, c'est plus
la passion, le jaune normalement.
La passion également, effectivement.
La
là, les thématiques, c'est plus sur les médias, notamment pour le 4, puisque tu es aspiré dans une télé.
Mais c'est ça, le monde, c'est la télé.
Mais c'est les élections françaises.
Ça se passe dans le monde de la télé.
C'est ça, c'est TV World, je sais plus. Enfin, il y a tout un truc.
Ouais, ça se passe effectivement dans le monde de la télé. On a beaucoup toute cette histoire de news et de meurtres. C'est une grande enquête, Persona 4. C'est ça qui est génial. C'est une grosse enquête policière sur 80 heures. Super conséquent, avec un final qui est pas dégueulasse, auquel on s'attend pas forcément.
Alors moi, je l'ai trouvé un peu forcé. J'ai pas fini le jeu, je me le suis fait spoiler malheureusement.
Oui, bah, oui.
Mais le final, j'ai trouvé un petit peu.
Ah, moi j'ai trouvé ça sympa.
Voilà. C'est pas mal.
Je m'y attendais pas. On aurait pu s'attendre à pire, vraiment.
Oui, voilà,
pire,
on aurait pu s'attendre à pire.
Moi, c'est les Persona avec lesquels j'ai commencé la saga. Donc,
Et de toute façon, c'était un très bon jeu. Et alors moi, dans Persona 4, je trouve surtout que, à mis à part Teddy, qui est insupportable, qui est la mascotte, les personnages sont hyper attachants, ils sont vraiment bien. Même s'il y en a qui sont un petit peu débiles, un petit peu ci, un petit peu ça, qui sont un petit peu clichés, en général, ils sont vraiment, vraiment chouettes et c'est une aventure qui est agréable à suivre à travers ces personnages. Donc voilà. Si tu aimes FF13, tu n'aimeras pas Persona 4.
Et Persona 4, faut pas oublier que c'est aussi le meilleur jeu de la PlayStation Vita.
On est d'accord, c'est la meilleure version d'ailleurs, hein, sur PS Vita.
Oui, de, ça fait un total de 1 jeu sur PlayStation Vita. sinon, vous pouvez caler une table avec.
Je vous parlerai de Danganronpa, je vous ferai une grosse chronique.
Mais oui, c'est moi, c'est le personnage avec lequel j'ai appris la saga. Je l'ai trouvé en PS2, donc c'était un des derniers jeux qui était sorti. Je suis tombé dessus par hasard. Je ne connaissais pas du tout la saga à cette époque et je suis tombé amoureux. Je me suis fait le 3 dans la filade. J'ai essayé de jouer un peu, enfin je me suis intéressé aux histoires des anciens, etc. C'est vraiment
On vous recommanderait plus d'ailleurs le 4, hein,
pour commencer, moi je voterais le 5, mais le 4 est vraiment excellent.
Si vous n'avez pas accès à une PS3 ou une PS4,
vous loupez. Après, si vous voulez vraiment celui qui était le plus influent et celui qui est plus marqué dans son style, le 3.
Le 3 sans aucun souci, voilà. Je suis d'accord. Complètement d'accord.
Le 3, si vous êtes habitué au Final Fantasy, au truc comme ça, et que vous voulez un RPG qui change, faites le 3.
Alors, c'est Persona 4 qui a donné aussi accès à beaucoup de spin-off.
Oui.
Alors, il y a Persona 4 Arena et les jeux de baston, justement, que Ferdi adore.
C'est ça, fait par Arc System, ceux qui ont fait Guilty Gear.
Dont on n'aura pas beaucoup le temps de parler, malheureusement, cette fois-ci.
Si ce n'est que c'est bien.
Si ce n'est que c'est très sympa.
Sinon que je dois doser Tom un jour.
T'es déjà.
Il y a eu aussi l'anecdotique Persona 4 Dancing All Night.
Et qui est vachement bien en plus.
Qui est un petit peu anecdotique.
Oui,
quand
mais
même,
qui est bien. C'est ça le pire. C'est
vraiment bien.
Même en faisant un jeu un peu pour le fun, ils arrivent à faire un bon jeu. C'est assez fort.
Il y a également Dead or Alive.
Le petit Persona Q, mais dont tout le monde se fout un petit peu.
Ah, moi je l'aime bien.
Mais qui est très sympa.
Qui est cool. C'est un jeu qui fait partie du type de jeu, on va dire, de Etrian Odyssey, ou Shin the Wanderer, si j'ai bonne mémoire, quelque chose comme ça. Bref, c'est du dungeon crawler.
D'accord.
Et là, en fait, le pitch, c'est les héros du 3 et du 4 se rencontrent dans une aventure commune. Et franchement, c'est un bon jeu de la 3DS. Il est vachement fun. Et puis, bah voilà, ça a tout ce que fait un Persona de bien. Donc, ça fait déjà un bon jeu, en fait.
Et il faut savoir aussi que c'est une saga qui a engendré un autre jeu, c'est Catherine.
Catherine,
qui est tiré de l'univers des Persona.
C'est
pour vous dire à quel point c'est un univers, l'univers des Persona.
On n'a pas beaucoup Mega avancé PC, dans Persona 5, mais on espère secrètement un caméo.
Soit le bar, ça serait trop bien. Soit le bar, soit Catherine. Quoi.
En fait, le héros de Catherine vient d'un mec que tu rencontres dans le bar dans Persona 4.
4,
je m'en souviens.
J'aurais dit 3.
Qui s'appelle Vincent aussi. Que tu croises dans un bar, effectivement, c'est l'histoire de ce gars-là.
Là, c'est un spin-off. C'est un univers merveilleux.
J'ai fait à peu près un alors.
Non mais mine de rien, Catherine fait partie de l'univers des Shin Megami.
Ah oui, je suis d'accord. Et c'est un excellent. On en a parlé.
On a fait. Jouez à Catherine. Tous là qui regardent.
Écoutez notre podcast
sur Catherine. Effectivement,
c'est un bleu.
Même s'il commence à dater un petit peu maintenant, je pense que ça vaut encore le coup.
J'étais encore un enfant.
Voilà.
Laissez un pouce de la couleur de Persona 3, s'il vous plaît.
Alors, il nous reste quelques objets ici. Alors ça, c'est la petite mascotte de Persona 5. On tenait à vous la montrer, qui est très mignonne.
Moi, je pense que si je conseille plus Persona 5 que les autres, c'est parce que Persona 5 n'a pas de mascotte insupportable.
C'est vrai.
Morgana, la mascotte
vraiment
voyez,
très cool,
est un personnage à la fois bien écrit, pas pénible. Qu'est-ce qui se passe? Et bien doublé. Waouh. Je suis très surpris.
Et une petite chose, si vous aimez Persona, on vous conseille cet énorme bottin.
De toute façon, si vous aimez Persona, vous aimez lire.
Voilà, vous aimez lire, effectivement. Ça s'appelle Persona derrière le masque. C'est chez Third Edition. C'est 550 pages d'analyse sur les 4 premiers Persona. Et ça vaut 25€.
Bon, c'est cool.
c'est pas abusé.
15, c'est la faute à la manie.
Voilà.
C'est un magnifique livre Persona.
Et je rappelle qu'il y aura un volume 2 entièrement consacré à Persona 5 dans quelques mois.
N'hésitez pas à précommander le volume 2 chez votre librairie ou tout magasin de jeux vidéo participe.
Exactement.
C'est bien Guillaume.
Exactement. Voilà. Alors là, on est passé très vite, hein, mais voilà, on aurait beaucoup de choses à vous dire
On a 10 minutes.
Une émission par Persona en fait.
Une émission
grosso modo.
On pourrait faire une émission par Persona tranquille.
Un live de 5 heures sur Persona.
Ça peut être sympa.
Là, ce qu'on voulait, c'est vous intéresser au moins,
à l'univers.
Vous alpaguer un petit peu dans l'univers de Persona.
Puis si vous avez envie d'un jeu PS4, il y a le 5 qui est sorti, allez-y.
Exactement.
Si vous avez une nouvelle aventure,
le 5 est réellement incroyable. Hein.
Loin des blockbusters occidentaux. Si vous voulez faire quelque chose de nouveau, de différent, que vous n'avez jamais testé, achetez le 5.
Franchement, c'est un conseil.
Je le ferai.
T'as une PS4, Guillaume ?
J'ai une PS4.
Ouais. Mais même idée sur PS3.
Tu me le prêtes ?
J'irai chez toi, Guillaume.
Ah bah oui, c'est vrai.
Je suis un caca consumériste.
moi aussi.
Je suis désolé. Parmi vous se trouvent deux chroniqueurs qui sont des caca consuméristes. qui ont acheté deux fois le même jeu parce qu'il faut toujours payer plus cher pour la même chose.
Toujours.
J'ai 8 The Furring.
Carrément, ok, top.
Et ben, on va s'arrêter là pour le débat et on va passer directement au quiz. Et c'est parti. Parti pour le quiz.
On aime les quiz.
Alors, ce quiz-là, ce sera donc un quiz musical. Alors, il y aura bien sûr des points comme à chaque fois hein, par quiz. Donc, pas de quiz de fond cette fois, hein, pas de musique de fond.
Pour nos auditeurs qui sont sur Facebook, si j'ai bien compris, vous ne pourrez pas.
Ils pourront pas jouer.
Participer à ce quiz.
Est-ce que tu peux quand même mettre un petit peu de son?
Alors, le problème, c'est que, attendez, si on va essayer, regardez, attention, il risque d'y avoir un Arsène. Attention, je teste.
Vas-y, teste.
Que c'est horrible,
ça marche, non, ça a l'air. Hein.
Ah voilà, donc désolé, on va abandonner.
Ah, désolé.
Donc ce que vous allez faire, voilà, si vous voulez participer à ce quiz, on vous explique comment vous allez devoir faire. Vous allez vous mettre sur 99.5 FM
ou sur le player en ligne
de Radio Campus Tour.
Sur le player en ligne de Radio Campus Tour. Et donc voilà, là vous pourrez participer et avoir les musiques. Donc, parce que si vous êtes que sur Facebook, on peut pas.
Ok,
vous
alors.
Coupez le Facebook par contre, parce qu'il y aura un décalage et vous allez péter un câble.
Une petite explication des règles. Du coup, il y aura effectivement un nombre de points comme d'habitude, mais si vous me donnez le titre de la chanson en plus du titre du jeu, vous gagnez un point supplémentaire.
D'accord.
Alors, comme d'hab, on lève la main et on dit
votre nom. C'est moi qui choisis.
Ouais, et vous respectez, s'il vous plaît. Hein.
Alors, extrait numéro 1 pour 2 points.
1, 2, 3.
Ça met un peu de temps.
J'entends.
Ah, Tom, c'est Castlevania et c'est Blood quelque chose.
Quel Castlevania du coup?
Il est dans quasi tous.
Bah, oui,
pour c'est être le sûr, thème je vais Castlevania. Dire Castlevania 4.
Tous.
Voilà, comme ça il est dedans, c'est sûr.
D'accord.
Et c'est pas Bloodstain, c'est quelque chose, c'est Blood. Voilà.
Allez.
Non, Vampire Killer celui-là.
Je sais pas, Tom, c'est
le dire. Voilà, je vais m'arrêter à ces Castlevania pour avoir juste 2 points.
Ok, mais
je
crois que c'est Vampire Killer. Alors, c'est Castlevania Symphony of the Night, c'est la version de Symphony of the Night, c'est okay. Bloody Tears.
Ah, c'est pas loin. Je sais qu'il y a Blood dedans là.
Ok, donc ça te fait 2 points, Tom, et on passe à l'extrait numéro 2 pour 2 points toujours. Ça va aller très vite. Dès que ça va se déclencher, ça prend un petit peu de temps. Ferdi. J'ai vu Ferdi.
Portal.
Portal et le nom de la chanson.
Portal. Non, je sais pas le nom.
Tu te connais pas le nom de la chanson.
Je me souviens plus.
Cake Song.
Non, c'était Still Alive.
Bah oui.
Tout simplement. 2 points pour toi, Ferdi.
Je me souviens plus.
Still Alive.
GLaDOS, si tu m'entends.
Extrait numéro 3 pour 2 points.
C'est lancé.
Ah,
pas point.
Tom, c'est pas Mario Galaxy.
Non, c'est Guillaume, c'est Zelda.
Non,
même pas.
Ferdi,
Super Smash Bros.
Non.
Ah, Tom, Pokémon.
Non.
Pokémon, c'est le thème.
Alors, rouge et bleu. Lequel?
Rouge et bleu.
Rouge et bleu.
Avec pas du tout. Non, pas cet arrangement-là, sinon ça va être Stadium. Allez.
Stadium. Non, qui pourrait me trouver le Pokémon du coup?
Le Pokémon.
Le Pokémon. C'est quand même un arrangement qui est assez récent. Hein, là.
C'est Pokémon Battle Revolution sur Wii.
Non.
C'est Pokémon version or, version DS.
Non plus.
Pokémon Tag.
Non plus.
Je sais pas, ouais, Soleil Lune peut-être.
Un tout petit peu moins récent.
Ah, XY.
Effectivement. Qui est-ce qui avait marqué les points?
Je tiens à remarquer que Tom avait répondu alors qu'il avait déjà eu faux une fois. Normalement, il doit laisser la part
c'est
à ceux qui...
Voilà. C'est vrai, c'est
ouais,
vrai.
Ouais, ouais,
pour
ouais.
La prochaine fois, on le comptera pas.
Voilà, je...
Question numéro 4 pour 3 points.
C'est parti.
Des fois, on vous fait des cadeaux comme ça.
Ferdi.
J'ai entendu Ferdi en premier. Je suis désolé.
Tetris.
C'est marrant de pas l'avoir mis au début parce que sinon ça aurait été encore plus.
Ouais, c'est là. Ouais. Tetris.
Je me souvenais plus de mon nom aussi.
Extrait numéro 5. 3 points.
Tom, c'est le Gaï Sim de Street Fighter 2.
Oh. On est d'accord et on va la laisser un petit peu.
Oui, je pense qu'on peut la laisser en entier. Bah là, on est passé rapide. On
arrive avec la petite goutte.
Ok.
Ça
donc,
va avec tout.
Effectivement, extrait numéro 6 pour 3 points.
Tom, Okami.
Okami, oui, Okami. Mais... Ah, c'est dur, là.
Okami Den.
Non,
c'est Okami.
Ouais,
okay, alors lequel? Je sais pas, je ne saurais pas reconnaître la musique.
Alors, ça s'appelle The Sun Rises, d'accord. C'est une des premières, effectivement. C'est pas grave, mais c'était
très compliqué. Bon jeu, Okami.
Très bon jeu, excellent passant, jeu, on y reviendra. Question numéro 7 pour 4 points. Il va falloir se concentrer un peu.
Ça me dit quelque
chose. Ah, vous avez tous craqué.
Ah, moi je l'ai pas.
Ah, moi je l'ai.
Bah, dis-le, hein. Tu le sais.
C'est qui dit Guillaume, tu devrais le savoir. Tu vas pleurer quand tu sors.
Je le laisse, hein. C'est agaçant.
Je crois que c'est le pire, c'est quand tu sais en fait.
Ouais.
C'est ça, j'ai joué.
Ça,
ça, je l'ai entendu.
Ça m'énerve.
Alors donne-nous des petits indices. Qui a joué parmi nous là ? Alors vous avez tous joué.
Tous.
On l'a tous fait et tous fini a priori, je pense. On a même fait une émission.
Guillaume, Bioshock.
Oui, c'est Bioshock, effectivement. Et c'était effectivement le passage où on voit un mec jouer du piano.
Mais oui, c'est l'autre qui est avec ses quatre statues là, c'est le meilleur passage.
Qui s'appelle Cohen's Masterpiece.
Ouais, Cohen's Masterpiece, la, la meilleure musique.
J'en ai des frissons.
Question numéro 8 pour 4 points.
Je suis agacé.
Mets les points.
Ça me tire le fil.
Je les ai mis les points.
Ah ok. Pourquoi tu m'en as pas mis le double là ?
Faudrait mettre des points de souffrance aussi, ouais.
Concentration.
Ouh, il y a un ennemi. Putain, j'aurais dit Pierre des Caraïbes, tu vois.
Mathis,
franchement, j'aurais dit ça.
Ah,
MGS.
Oui, Metal Gear Solid, effectivement.
Attends,
mais
alors,
lequel?
Lequel?
Là, c'est très chaud, par contre.
Est-ce que c'est la version PSP?
Non.
Vous êtes dans le maillon faible. Bonsoir.
Notre réponse.
C'est pas le 3.
Non, ça, c'est le 1. C'est le thème du 1, ça.
Non.
Et non. Ah, c'est peut-être un autre.
C'est Phantom Pain.
Et non, on va s'arrêter.
C'est
Metal Gear Solid 4. Ah, c'est le 4, c'était cette version là.
C'est le seul que j'ai pas joué en fait.
Allez, question numéro 9 pour 5 points et on a bientôt fini.
Hop.
Là, c'est un petit peu compliqué.
Je connais ce jeu.
Vous connaissez tous ce jeu. Vous ne connaissez que lui.
La musique de la pub de la bande populaire.
Ferdi.
Chemno.
Non.
Non.
C'est un jeu d'un monsieur qui n'a fait que 3 jeux finalement.
Guillaume, Ico.
C'est Ico, ouais. Effectivement.
Ah, c'est pas le thème. Bien joué.
Castle in the Mist, pour le nom de la chanson. Question numéro 10 pour 5 points. Tu rajoutes 5 points, Guillaume.
Tom, Mega Man 2, Wavy Stage 1.
Allez, Docteur Willis Castle, je compte 6 points pour toi. Et voilà, c'était juste pour finir sur une
Bon, bah, Tom vient. Alors que Guillaume commence à rattraper la pente, Tom nous a massacré.
Voilà.
Bravo.
Et donc, Tom a encore gagné. On lui fera tester un jeu de merde la prochaine fois. Bravo, Tom.
Petit truc d'ailleurs à tous nos fans, il y aura un petit cadeau quand nous atteindrons un certain palier de j'aime sur notre Facebook. Donc, n'hésitez pas à aimer en mars.
Mais n'hésitez pas.
Si vous aimez les jeux PC, profitez-en.
Alors en réalité ce sera un jeu 360, donc aimez si vous avez le 3.6.
Et même si vous aimez pas, mettez un pouce bleu.
Oui, mettez un pouce bleu,
c'est la même chose.
Allez, donc merci à tous.
On vous dit à dans 2 semaines pour une prochaine émission, on connaît pas encore le thème, on verra ça.
Et on vous laisse avec l'équipe de Just Story, on se retrouve du coup à plus sur C'est la faute à mettre, sur 99.5 FM, sur Radio Campus.
Ciao, salut.